Chapitre 12. Owen. Il observe à travers la fenêtre de l'accueil du troisième étage les flocons indolents tombés du ciel gris et lourd de janvier. Il déteste la neige à Londres, cette fausse bonne nouvelle qui ne vaut aux londoniens que des trottoirs glissants, des bonshommes de neige rabougris, des retards dans les transports et le désordre généralisé. Owen est un professeur d'informatique au lycée professionnel d'Ealing depuis 8 ans. Mais, pour le moment, il ne donne pas cours. Il attend d'être reçu dans le bureau du proviseur à la suite d'une convocation vague, mais assez inquiétante. Son estomac se noue quand il pense à la conversation à venir. Enfin, la secrétaire s'adresse à lui. « Jed vous attend », annonce-t-elle en reposant le combiné. Dans le bureau de M. Bryant, Owen découvre avec surprise Holly McKinley, la directrice des ressources humaines, et Clarice Dewar, la CPE. L'ambiance est pesante. L'heure est grave. Clarice ne le regarde pas, elle qu'il considère comme une collègue proche, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il discute de temps en temps. Holly se lève. « Merci de vous joindre à nous, Owen. » Elle lui tend la main. Owen la serre, gêné par la moiteur de sa paume, et se fait violence pour ne pas s'en excuser. « Asseyez-vous !» l'invite Jed en désignant une chaise vide. Il s'exécute et regarde fixement les chaussures qu'il vient d'acheter. C'est la première fois qu'il peut les mettre sans qu'elles ne lui fassent mal. Ses souliers en cuir marron, avec un bout pointu et une forme à la mode, ne ressemblent pas à ce qu'il porte d'habitude. Il espère toujours que quelqu'un va les remarquer, le complimenter, mais ce n'est pas encore arrivé. Et maintenant, il se demande bien pourquoi il les a achetés. Owen, malheureusement, nous avons reçu une plainte vous concernant, commence Clarice. En réalité, il s'agit de 2 plaintes liées au même incident. Owen plisse légèrement les yeux. Il se creuse les méninges pour se remémorer un événement récent qui pourrait être qualifié d'incident, en vain. Clarice étudie le document qu'elle tient dans les mains. Cela s'est produit le 14 décembre dernier, pendant la fête de Noël. Owen hausse les sourcils. La fête de Noël. Il n'avait pas voulu y aller. D'ailleurs, cela faisait 2 ans qu'il ne prenait plus part à ce type d'événement. Il trouvait délicat d'être un prof invité à une fête d'élèves, de trouver le bon équilibre entre une attitude d'observation renfrognée et une participation trop enthousiaste. Si par malheur vous tombiez dans l'un ou l'autre de ces excès, la fête devenait un fiasco. Il avait pourtant fini par accepter devant l'insistance de 2 filles de première, Monique et Maisie. « Allez, monsieur !» Elle continuait à l'appeler monsieur, alors que tous les autres élèves l'appelaient Owen. « On veut vous voir sur le dance floor !» Il avait l'habitude de cette sorte de harcèlement sexuel inversé. Cela lui arrivait souvent, parce qu'il était discret, qu'il ne révélait que peu d'aspects de sa vie privée, qu'il avait un côté un peu bizarre, et qu'il avait besoin de cloisonner domaines professionnels et personnels. Certains élèves se donnaient pour mission de briser sa carapace. En général, c'était les filles, et elles avaient recours à leur féminité pour aboutir à leur fin. Ces 2-là, Monique et Maisie, n'avaient pas lâché le morceau. « Allez, monsieur, soyez cool, on n'a qu'une seule vie !» et avaient réussi à le convaincre. Il était resté jusqu'à la fin de la soirée. Il avait bu des shots. Il avait dansé. Il avait transpiré. « Monsieur Burke, vous êtes trempé !» Il était rentré en métro à 1 heure avancée de la nuit, tiraillé entre un sentiment de triomphe et de honte, et s'était réveillé quelques heures plus tard, la tête comme une enclume. Mais il s'était bien amusé, s'était-il dit par la suite. Une soirée digne de son lendemain. 2 de nos élèves ont rapporté que vous leur avez fait des commentaires sexuels déplacés, poursuit Clarice sans lever les yeux. « Quoi ?» s'insurge Owen en se balançant légèrement sur sa chaise. Que vous avez décrit vos préférences sexuelles en détail. Que vous avez eu des contacts physiques inappropriés. Les épaules. Les bras. Vous leur auriez aussi éclaboussé le visage avec la sueur de votre front et de vos cheveux, délibérément. En plus de cela, les jeunes filles affirment que vous employez avec elles un ton condescendant pendant vos cours. Owen a les poings serrés sur ses genoux. Il regarde Clarice droit dans les yeux. Non, pas du tout. Je m'adresse à tous mes élèves de la même façon. Ces accusations sont complètement infondées. Et pour la sueur, c'était un accident. J'étais en train de danser, et ma sueur les a peut-être éclaboussées. Ce n'était pas intentionnel. D'ailleurs, je vois très bien de quelle fille vous parlez. Elle me cherche depuis 2 mois. Owen, nous allons devoir ouvrir une enquête interne. Pour l'instant, c'est leur parole contre la vôtre. Ces élèves prétendent que certains de leurs camarades souhaitent également témoigner de votre attitude sexiste en classe, et de votre comportement déplacé pendant la fête de Noël. Owen sent une rage brute monter en lui. Il voudrait l'expulser et la jeter au visage de cette commission disciplinaire, et en particulier à celui de Clarisse, qu'il observe avec un mélange de pitié et de dégoût. « Il n'y a pas eu de comportement déplacé lors de cette fête. Je n'ai pas de comportement déplacé. Je reste professionnel en toute situation, en classe comme à l'extérieur de l'établissement. Je suis désolée, Owen, mais nous devons tirer cette affaire au clair. Et à ce titre, j'ai bien peur que nous devions vous mettre à pied pour quelque temps. Pardon ? Nous ne pouvons pas mener cette enquête alors que vous continuez à intervenir auprès des élèves qui vous accusent. C'est le règlement. Je suis sincèrement navré. » explique Jed. Au moins, il avait l'air vraiment désolé. Probablement parce qu'il va être contraint de remanier tous les emplois du temps et de trouver quelqu'un pour assurer ses cours, ce qui devrait s'avérer assez compliqué, d'autant plus que sa collègue qui enseigne la même discipline s'apprête à partir en congé maternité. Mais, enfin, ça va durer combien de temps ? 2 semaines pour commencer. On vous tiendra au courant. Je ne pense pas que cette enquête nécessite plus d'un mois, si elle révèle que vous n'avez rien à vous reprocher, bien entendu. Donc je vais récupérer vos affaires dans votre bureau. Ensuite, vous pourrez rejoindre Holly dans le hall pour prendre congé. Owen ferme les yeux puis les ouvre lentement. On va l'escorter hors du lycée, alors qu'il n'a rien fait de mal. Il voudrait attraper la chaise sur laquelle il est assis et la lancer contre la fenêtre, au-dessus de la tête de Monsieur Bryant. La faire voler en éclats, regarder les bris de verre scintiller dans la neige sur le parking. Il voudrait débarquer dans la salle 6D, là où Monique et Maisie suivent un cours sur les microservices en ce moment. Il aimerait se planter devant elle, et du haut de son 1m77, leur crier dessus un bon coup. Au lieu de quoi il se lève avec raideur, ravalant toute la rage qui déferle en lui, et quitte le bureau. Quand il sort du métro à Finchley Road, 1 heure plus tard, il ne neige plus. Son sac à dos pèse 1 tonne avec toutes ses affaires, y compris sa lampe en cristal de sel. Il aurait dû la laisser sur place. Après tout, il sera de retour dans 2 semaines. Mais une petite voix dans sa tête lui murmurait « Et si elles avaient raison ?» Pour aller du métro jusqu'à la rue où il habite, il faut monter la colline, une pente courte mais raide au sommet de laquelle se trouvent 2 écoles privées. En commençant son ascension, il se rend compte qu'il est 15h30, l'heure de la fin des cours. De ce fait, la colline pullule de jeunes enfants allant de ci de là, de mères qui les suivent, chargées de petits sacs à dos et de gourdes colorées. Sur le sol, la neige a fondu. Mais sur les capots des voitures se trouve encore un épais manteau dont les enfants s'emparent pour en faire des boules et les lancer sur les autres. Il court en tous sens, et l'un d'eux se jette devant lui sans le remarquer. Il manque de tomber et doit se rattraper à un mur. Les mères ne font pas attention. Owen déteste ces femmes-là, ces mamans vêtues de leggings étranges, avec leur brushing, leurs grosses parkas d'hiver, leurs capuches bordées de fourrure, les restes de leur bronzage de Noël, leurs baskets toutes neuves. Qu'est-ce que ces femmes peuvent bien penser, se demande-t-il, quand elles sont seules, que les enfants sont au lit, qu'elles tiennent à la main un ballon de vin? Que font-elles quand elles ne sont pas à la salle de sport, ni à attendre leurs enfants à la sortie de l'école? Où se situent-elles sur le spectre de l'humanité? Il n'en sait rien. Ces femmes sont pour lui un éternel mystère, comme toutes les autres d'ailleurs, même les plus ordinaires. Owen vit dans un appartement caverneux situé au rez-de-chaussée d'une grande maison, dans l'une des plus belles rues de Hampstead. L'allée qui mène à la demeure n'est pas entretenue, sauf l'espace réservé aux poubelles. Un fauteuil trône dans l'herbe, abandonné là depuis déjà plus d'1 an. Personne ne s'en plaint. Les résidents sont des personnes âgées et des ermites. L'appartement appartient à sa tante, Tessie, et c'est le plus spacieux de la bâtisse, avec le plafond le plus haut, les fenêtres les plus larges, de grandes portes en bois surmontées d'un poste, ce qu'il n'y a pas aux autres étages. La chambre d'Owen se trouve au fond, à gauche. Sa fenêtre donne sur le jardin dont personne ne s'occupe, et sur un terrain vague qui s'étend, derrière un mur, là où se dressait autrefois un manoir. Sa maison est une aberration dans cette rue où se côtoient les nouveaux bâtiments tape à l'œil et les manoirs splendides dissimulés par des murs d'enceinte. Le propriétaire du terrain est un mystérieux Écossais que l'on ne connaît que sous le nom de Monsieur G, et qui semble avoir fait une croix sur l'entretien de cette maison, jadis magnifique. Tessie lui a écrit plusieurs fois sans jamais recevoir de réponse. La tante d'Owen n'est pas dans les parages ces temps-ci. Elle a également une maison en Toscane, qui est aussi délabrée que son appartement londonien, mais elle s'exile régulièrement dans sa villa. Quand elle part, elle ferme à clé les portes de toutes les pièces, sauf celles de la salle de bain et de la cuisine. Elle prétend vouloir se prémunir contre d'éventuels cambrioleurs, Mais Owen sait bien qu'elle prend cette précaution parce qu'elle est convaincue qu'il profitera de son absence pour fouiller dans ses affaires. D'ailleurs, elle ne procède pas autrement lorsqu'elle est à la maison, bien que Owen n'ait jamais, au grand jamais, franchi le seuil de son salon. Owen entre et hume profondément l'air où se mêlent des notes familières de détergent, de l'adoucissant bon marché que Tessie utilise, l'odeur renfermée des vieux coussins et des rideaux poussiéreux, et le fumet doucereux des cendres froides de la cheminée. Il fait déjà sombre à cette période lugubre de l'année, et Owen allume les lumières, appuyant sur les interrupteurs en bakélite jaunie qui grésillent sous ses doigts de façon inquiétante. Les ampoules sales libèrent une lumière triste et verdâtre. Il fait un froid de loup. Il y a un radiateur mural dans la chambre d'Owen, mais Tessie éteint la chaudière quand elle part, et l'allume très peu même lorsqu'elle est là. Owen a donc également un petit chauffage d'appoint qu'il cache derrière sa commode. Tessie l'obligerait à s'en débarrasser si elle le découvrait, persuadée que son utilisation décuple sa facture électrique. Il pose son sac à dos sur le lit et se laisse tomber lourdement dans un petit fauteuil à motif floral. Il attrape le chauffage et l'allume. À cause de la hauteur de plafond, la pièce met longtemps à se réchauffer. Mais quand il fait meilleur, Owen se débarrasse de ses nouvelles chaussures qui disparaissent sous le lit. Il ne veut plus les voir, et encore moins les porter. Sans qu'il puisse se l'expliquer, il a l'impression que ses chaussures sont la cause des événements de l'après-midi. Elles ont fait de lui un autre homme, quelqu'un qu'il n'est pas. Un prof capable de faire des commentaires déplacés à ses élèves. Un homme qu'il faut escorter hors de son lieu de travail. Il retire son pull-over, puis passe ses mains sur ses cheveux chargés d'électricité statique pour les aplatir. Owen a les cheveux fins. Il essaie tant bien que mal de les dompter pour garder une raie sur le côté, mais ils réussissent toujours à revenir se séparer au milieu de son crâne, donnant l'impression qu'Owen a choisi cette coiffure pour ressembler au type bizarre dans The Office. Et Owen n'a rien à voir avec ce personnage. Déjà, il est beaucoup plus beau. On ne lui a jamais dit qu'il était beau, mais on ne lui a jamais fait remarquer qu'il était laid non plus. Par la fenêtre, Owen observe la neige qui tombe du ciel boueux, chaque flocon éclairé momentanément par les réverbères. Il a peur que cette fois-ci elle tienne, et qu'il soit difficile demain matin de descendre la colline jusqu'au métro, en se cramponnant aux véhicules stationnés et aux murs pour éviter la chute. Puis il se souvient de l'incident, de sa mise à pied. Il se rappelle que le contenu de son bureau se trouve dans le sac sur son lit. Il n'a nulle part où aller demain. Il y a de quoi manger dans le réfrigérateur, assez pour 2 jours. La neige peut tomber, peut tout recouvrir. Il n'a aucune raison de s'en inquiéter.